Bienvenue à BetaFinch, votre analyse des résultats financiers alimentés par l'IA. Je suis Alex, et je suis rejoint aujourd'hui par Jordan pour décomposer les résultats du premier trimestre 2026 de Duke Energy. Jordan, merci d'être là.
Heureux d'être ici, Alex. Duke Energy a sorti des chiffres vraiment impressionnants cette semaine, et il y a beaucoup à déballer.
Absolument. Avant de commencer, je dois donner un avertissement important à nos auditeurs. Ce podcast est un contenu généré par intelligence artificielle à des fins éducatives et de divertissement uniquement. Rien de ce que nous discutons ne doit être considéré comme un conseil en investissement. Faites toujours vos propres recherches et consultez un conseiller financier qualifié avant de prendre des décisions d'investissement.
C'est important à souligner.
D'accord, commençons par les bases. Duke Energy a annoncé un bénéfice par action ajusté de 1,93 $ pour le premier trimestre 2026. Jordan, comment cela se compare-t-il aux attentes?
C'est un solide point de départ pour l'année. Le BPA de 1,93 $ dépasse les 1,76 $ de l'année précédente, donc nous parlons d'une augmentation d'environ 10% d'une année à l'autre. Plus important encore, la direction réaffirme sa fourchette de prévision pour 2026 de $6.55 à $6.80 par action, et elle est même plus confiante qu'elle peut atteindre la moitié supérieure de sa fourchette de croissance du bénéfice par action de 5% à 7% à partir de 2028.
C'est du langage très confiant de la part de la direction. Qu'est-ce qui motive cette confiance?
Bonne question. Il y a deux catalyseurs majeurs ici. Premièrement, Duke vient d'annoncer plus de 5 milliards de dollars d'avantages pour les clients. Deuxièmement, et c'est vraiment important, la croissance de la charge économique est en train de s'accélérer de façon spectaculaire. Nous parlons des centres de données et des clients à grande puissance.
Parlons de cela. Duke a signé 2,7 gigawatts supplémentaires d'accords de services électriques au cours du trimestre. Pour nos auditeurs qui pourraient ne pas être familiers avec ces chiffres, qu'est-ce que cela signifie réellement?
C'est énorme. Duke a maintenant environ 7,6 gigawatts d'accords signés avec des clients de centres de données, et près des deux tiers sont déjà en construction. Pour mettre cela en perspective, 2,7 gigawatts représentent plus de la moitié de ce que Duke avait signé pour l'ensemble de l'année précédente. La direction appelle cela un cycle de construction une fois par génération.
Et la pipeline? Je vois que la direction a mentionné une pipeline de 15,4 gigawatts hautement confiante.
Exactement. Donc 7,6 gigawatts sont signés, mais il y a 15,4 gigawatts dans cette pipeline à haut niveau de confiance. Cela donne à Duke une visibilité sur une croissance potentielle vraiment substantielle au cours des prochaines années. Le PDG Harry Sidry a également mentionné que certaines régions, en particulier la zone de Charlotte en Caroline du Nord et le sud de l'Indiana, émergent comme de nouveaux centres.
C'est intéressant. Parlons maintenant des monétisations d'actifs. Duke a annoncé plus de 5 milliards de dollars de produits au cours du trimestre. Où vient cet argent?
Il y a deux transactions principales. Premièrement, Duke a reçu 2,8 milliards de dollars de la première tranche de l'investissement minoritaire de Brookfield dans Duke Energy Florida. C'est pour une participation de 9,2%. Deuxièmement, Duke a complété la vente de son activité Piedmont Natural Gas Tennessee à Spire pour 2,5 milliards de dollars.
Et comment Duke utilise-t-il cet argent?
C'est crucial pour leur plan d'investissement. Duke a un plan d'immobilisation record de 103 milliards de dollars. Ces 5 milliards de dollars renforcent leur profil de crédit et aident à financer de manière efficace ce plan d'investissement massif. C'est une approche très disciplinée du financement.
Parlons maintenant de quelque chose qui pourrait être préoccupant pour les clients, les tarifs. La direction a été très claire sur son engagement envers l'abordabilité des tarifs.
Oui, et c'est un thème qui revient constamment. La direction a souligné que les tarifs de Duke sont en dessous de la moyenne nationale et ont augmenté à un rythme inférieur à l'inflation. Ils ont également annoncé une monétisation d'impôts sur l'énergie propre de 3,1 milliards de dollars. Brian Savoy, le directeur financier, a expliqué qu'il s'agit d'un contrat pluriannuel avec un partenaire qui a une bonne capacité fiscale. Cette approche prévisibilité, c'est important. Au lieu de vendre les crédits d'impôt sur le marché chaque année, Duke les verrouille à une valeur prédéterminée.
Comment cela profite-t-il aux clients?
Cela crée de la prévisibilité et assure que la valeur complète revient aux clients. ces crédits fiscaux représentent environ 600 millions de dollars par an pour les clients. Avec cette monétisation pluriannuelle, Duke fixe la valeur à l'avance, ce qui signifie pas d'enchères année après année avec des variations de prix. C'est une excellente gestion financière.
Parlons maintenant de la fusion de la Caroline. C'est une grande nouvelle qui a reçu l'approbation réglementaire.
C'est énorme. Duke a reçu toutes les approbations réglementaires, y compris de la FERC et des régulateurs de la Caroline du Nord et du Sud, pour combiner ces deux utilitaires des Carolines. La date d'effet prévue est le 1er janvier 2027. Et voici le kicker, la direction estime que cela générera 2,3 milliards de dollars d'économies pour les clients jusqu'en 2040. C'est une fusion vraiment axée sur les clients.
Comment Duke quantifie-t-elle ses économies ?
En combinant les opérations, Duke peut éliminer les redondances, rationaliser les opérations et réaliser des économies d'échelle. Ces économies sont ensuite transmises aux clients. C'est une approche très progressive, et elle s'aligne complètement avec la priorité affichée de la direction envers l'abordabilité.
Passons à la génération d'électricité. Duke ajoute une quantité significative de capacité. Que ajoute Duke exactement ?
Duke ajoute 14 gigawatts de génération au cours des 5 prochaines années. Le nucléaire reste fondamental pour leur stratégie. La commission de contrôle nucléaire vient d'approuver le renouvellement de la licence ultérieure pour la centrale nucléaire Robinson, ce qui est en fait la deuxième centrale nucléaire de Duke à atteindre ce jalon. Duke a 11 réacteurs au total et prévoit de demander des extensions similaires pour tous les réacteurs restants.
Et le gaz naturel ?
Duke a 5 gigawatts de gaz en construction et 2,5 gigawatts supplémentaires en développement. La Caroline du Sud a approuvé une centrale à cycle combiné de 1,4 gigawatts en comté d'Anderson en mars, qui est la première nouvelle centrale d'énergie de base approuvée après la loi sur la sécurité énergétique. La construction devrait commencer en 2027. Duke a également signé des contrats EPC pour les 3 premières nouvelles installations de génération au gaz dans les Carolines.
C'est un plan d'infrastructure très ambitieux. Comment Duke gère-t-elle les risques d'exécution ?
Excellente question. La direction a mentionné quelques détails vraiment intéressants ici. Duke a des accords en place pour sécuriser les équipements à long délai et la main-d'œuvre nécessaire. Elle travaille avec GE Vernova et a un cadre d'accord solide pour les turbines. Plus important encore, Duke utilise même l'IA pour le suivi de la construction. Ils suivent littéralement les projets au niveau granulaire, des mètres cubes de terre excavés au béton versé. C'est un niveau de rigueur vraiment impressionnant.
Et le marché du travail ? Comment Duke trouve-t-elle les travailleurs qualifiés pour tous ces projets ?
C'est une grande préoccupation. Duke a reconnu cela et a été très proactive. Ils travaillent depuis plus de 3 ans pour préparer ce cycle de construction. Ils ont des programmes de formation des travailleurs de ligne et partagent les meilleures pratiques avec leurs partenaires EPC. Et voici l'astuce, ils ont délibérément échelonné les calendriers de construction pour les projets Person County et Marshall pour créer une feuille de route permettant aux prestataires EPC ZACRI de mettre en place une main-d'œuvre régionale. Cela crée un bassin de métiers locaux durables pour les années à venir.
C'est une planification impressionnante. Parlons maintenant des cas tarifaires. Duke a des cas tarifaires en cours en Caroline du Nord.
Oui, et c'est une zone à surveiller. Les cas tarifaires pour Duke Energy Carolina et Duke Energy Progress sont en cours selon le calendrier. Le prochain jalon majeur est le témoignage des tiers, qui est dû à la fin mai en Caroline du Nord. Mais voici ce qui est intéressant, la direction a de nombreux leviers pour aider à maintenir les tarifs bas. Les crédits fiscaux en sont un. La fusion de la Caroline, avec ses 2,3 milliards de dollars d'économies potentielles, en est un autre.
La direction a-t-elle donné des indications sur la façon dont elle pourrait utiliser ces outils ?
Pas d'engagement spécifique, mais le message était clair. Harry Sidri a déclaré que la direction examinera comment offrir certains de ses avantages pour atténuer les augmentations tarifaires proposées. C'est une approche constructive. La direction est clairement consciente que l'abordabilité des tarifs est une priorité absolue pour les régulateurs et les parties prenantes.
Parlons de la situation financière globale. Quel est l'état du bilan de Duke ?
Très solide. Duke a émis pour 1,5 milliard de dollars de billets convertibles seniors au taux de 3%. Ils ont également tiré parti des conditions de marché favorables pour émettre 300 millions de dollars de capitaux propres en vertu de leur programme ATM, qui s'installera en décembre 2027, ce qui s'aligne bien avec leurs besoins futurs de capitaux propres. Plus important encore, la direction vise un ratio FFO à la dette de 14,5% en 2026 et 15% à long terme, ce qui fournit un coussin significatif par rapport au seuil de déclassement.
Et les dividendes ? Je crois que c'est un jalon important.
Oui. Duke Energy a célébré sa 100e année consécutive de versement de dividendes trimestriels. C'est vraiment remarquable. Cette constance du flux de trésorerie est directement liée à la solidité financière de Duke, à son exécution réglementaire et à ses investissements à long terme disciplinés. Beaucoup d'investisseurs de Duke vivent et travaillent dans les juridictions qu'elle dessert, donc ce dividende est vraiment important.
Portons maintenant notre attention sur ce que tout cela signifie pour les investisseurs. Jordan, comment résumeriez-vous l'histoire ici ?
Duke Energy se trouve à un point d'inflexion vraiment intéressant. Vous avez une croissance des charges économiques sans précédent en raison de l'IA et des centres de données. Vous avez une pipeline de projets de 15,4 gigawatts. Vous avez des monétisations d'actifs stratégiques qui renforcent le bilan. Et vous avez une direction qui est disciplinée sur les prix et l'abordabilité. La confiance de la direction a gagné dans la moitié supérieure de sa fourchette de croissance du BPA à partir de 2028 semble justifiée sur la base de la dynamique des charges que nous voyons.
Quels sont les risques que les investisseurs devraient surveiller ?
Il y en a quelques-uns. Premièrement, l'exécution. Cet plan de 103 milliards de dollars est massif. Les retards ou les dépassements budgétaires pourraient être un problème. Deuxièmement, les changements réglementaires. Les approbations tarifaires en Caroline du Nord et du Sud seront cruciales. Troisièmement, il existe des risques liés aux tarifs d'intérêt et au financement. Bien que Duke gère bien cela, les tarifs plus élevés pourraient être un vent contraire. Et enfin, les charges économiques pourraient ne pas se matérialiser aussi rapidement que prévu, bien que la direction semble plutôt confiante sur ce point.
Donc, au moment de notre conversation, où voyez-vous Duke Energy dans le contexte plus large du secteur des services publics ?
Duke est bien positionné. C'est l'un des seuls services publics qui bénéficie vraiment de la vague d'IA et du boom des centres de données. La plupart des autres services publics attendent de voir comment les choses se déploient. Duke, en revanche, signe déjà des accords. Et les dispositions de ces contrats, les dépôts, les dispositions de prise minimale, les dispositions de révocation, signifient que les clients existants sont protégés. C'est un équilibre délicat que Duke navigue bien.
Avant que nous nous en allions, parlons rapidement du calendrier pour cette croissance de charges économiques. Quand cela commence-t-il réellement à contribuer aux résultats ?
C'est une bonne question. Duke s'attend à ce que les clients commencent à prendre de l'énergie dès la deuxième moitié de 2027 et en 2028, puis à augmenter leurs charges contractuelles complètes jusqu'au début des années 2030. Donc vous regardez une rampe progressive sur plusieurs années. Cela crée une piste de croissance durable et durable bien au-delà de 2030.
C'est tout pour l'analyse d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé cela utile, envisagez de soutenir Betafinch sur Patreon. Votre soutien nous aide à améliorer nos voix et couvrir plus d'entreprises. Visitez patreon.com/betafinch pour en savoir plus. Merci de votre écoute.